Bonjour à tous, Maria Makiam devant ce micro pour votre débat éco de cette semaine. Nous parlons dans ce numéro d'agriculture avec notre invité Mahamadou Baldé, qui est le directeur général de Vive Afrique, un média panafricain spécialisé sur le développement durable. Bonjour Monsieur Mahamadou Baldé.
Bonjour Mariam.
Alors une citation pour débuter cette émission. Beaucoup d'opportunités autour de l'agriculture s'offrent aux acteurs du secteur bancaire. C'est une citation du docteur Edoué Dimitri Agbodian. Il est enseignant-chercheur en gestion de projets au Centre africain d'études supérieures en gestion, le CESAG. Alors, le docteur Agbodian a listé les filières porteuses, notamment dans l'agriculture. Quelles sont les opportunités qu'offre l'agriculture?
Alors, je commencerai déjà par dire bonjour à vos chers auditeurs de la West-African Democracy Radio. Et merci de m'avoir invité, Mariama, à cette chronique économique.
C'est un plaisir.
Et je pense que je suis d'avis avec le docteur Agbodian. L'agriculture offre énormément d'opportunités aujourd'hui au secteur financier en Afrique. Simplement parce que il y a... comme dans tout secteur, lorsqu'il reste beaucoup à faire, et c'est le cas dans notre secteur agricole, il y a forcément des opportunités. Et des opportunités pour tous les autres secteurs qui pourraient venir en appui à l'agriculture, notamment celui financier. Donc, comme l'a listé le docteur Agbodian, il y a bien évidemment beaucoup d'opportunités, c'est-à-dire de divers types de financements qui peuvent être aujourd'hui mis en place pour l'agriculture.
Voilà, donc. Alors, ce sont des opportunités pour le secteur bancaire, notamment les institutions financières, comment, quelles filières agricoles financer. Mais au-delà de cela, également, il y a des opportunités pour aujourd'hui quelqu'un qui veut se lancer aussi dans l'agriculture. Donc, du coup, on va le faire par étapes. Un Sénégalais, un Togolais, un Ivoirien qui veut se lancer dans l'agriculture, quelles sont les opportunités pour lui, avant de voir les opportunités pour le secteur bancaire?
Alors, les opportunités pour lui, déjà, c'est de trouver un travail pérenne. Première opportunité, puisque dans nos pays, on le sait tous, le chômage, le taux de chômage, il est assez élevé, et c'est un chômage qui est chronique. Un des secteurs qui pourrait vraiment permettre de relever ce défi, c'est-à-dire de résorber le chômage d'une masse critique de chômeurs, c'est bien évidemment l'agriculture. Donc, la première opportunité pour un jeune qui veut se lancer dans l'agriculture, c'est d'avoir déjà trouvé un travail, c'est-à-dire celui de sa propre entreprise. Mais encore une fois, il faut être formé. Moi, j'insiste sur ce point qui est crucial pour n'importe quel type de métier, y compris celui de l'agriculture, parce qu'il s'agit d'une entreprise. Ce n'est pas. On se lève un beau matin, on veut faire de l'agriculture comme ça. On a un lopin de terre et on essaie de le valoriser. Pour moi, c'est une erreur. On peut le faire comme ça, mais toujours en ayant l'idée de s'améliorer pour que ce petit lopin de terre-là soit le plus rentable possible.
L'agriculture, c'est un métier comme tout autre métier. Il faut être formé pour le faire.
Cela s'apprend. C'est-à-dire avec un hectare, on peut faire 10 fois plus dans le même hectare que si on n'avait pas appris à faire l'agriculture correctement. Donc cela s'apprend et je pense que c'est là où il y a encore des manquements. On parlera de financement bien sûr, mais d'abord c'est dans la formation, au niveau de la réflexion stratégique que les gouvernants ou les gouvernements devraient faire pour mettre en place des politiques qui permettent aux jeunes d'avoir une vision sur des activités génératrices de revenus qui, entre autres, pourraient bel et bien appartenir au secteur agricole. Mais il faudrait qu'il y soit préparé, c'est un minimum. Beaucoup de gens n'y pensent même pas, des jeunes qui sont pourtant au chômage dans des pays comme les nôtres, hein, où il y a des régions où quand même il y a beaucoup d'eau. En même temps, il y a beaucoup de terres arables, mais ils ne font rien parce que simplement, ils ne voient pas que c'est une opportunité. On ne leur a pas ouvert les yeux pour leur montrer qu'avec ça, vous êtes assis sur une mine d'or. Mm-hmm. Hein, et vous êtes en train de tendre la main en même temps en disant qu'il n'y a pas de boulot. Dans des pays comme les nôtres, ce n'est pas possible.
Mais hein. M. Mahamadou Baldé, pourquoi est-ce qu'une telle opportunité a des difficultés à être financée ? L'agriculture, tout le monde dit que oui, c'est un domaine qui est porteur, qui peut créer des emplois. On arrive à vendre ses produits, que c'est le socle de l'économie de nos pays. Et pourtant, les banques ne suivent pas. Pourquoi est-ce que les banques hésitent à financer l'agriculture?
Bon, déjà, les banques n'hésitent pas que pour l'agriculture. Les banques en Afrique, en tout cas pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest et particulièrement le Sénégal, les banques sont frileuses devant tout projet, pas que projet agricole. Je pense que c'est la question qui mérite d'être posée. Et ce n'est pas faute que les banques soient, non liquides. Elles sont au contraire liquides. Mais après, il n'y a pas un concours à l'économie. Qu'est-ce qui l'explique? Moi, je suis des gens qui pensent, je pense, c'est pas quelque chose de mûri très longtemps, mais je pense que on n'a pas de banque qui nous appartienne à proprement parler avec une politique vraiment d'appui au secteur de production. Pour la plupart des banques qui sont dans la place, ce sont des banques étrangères qui se positionnent plus dans un rôle de prédation des ressources que de concours à l'économie. À mon avis, c'est peut-être un des freins. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs, pour la plupart, leurs taux d'intérêt sont très élevés. C'est un moyen, entre autres, de faire blocage, de freiner certains projets qui ne peuvent pas, à ces taux-là, bien évidemment, emprunter. Vous ne pouvez pas emprunter à 20%, sachant que votre projet est rentable qu'à 30% et vous reste à la fin de l'année 10%. Avec 10%, vous ne pouvez pas vivre. Donc, c'est quasiment travailler pour la banque. Ce n'est pas envisageable. Donc, il faudrait que les taux aillent vers la baisse et répercutent carrément les signaux qu'émettent depuis très longtemps d'ailleurs la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Les banques de second rang ne suivent pas ce signal-là. C'est ce qui a été constaté depuis fort longtemps. Ce dont je parle là, c'est pas d'il y a 5 ans, 10 ans, c'est bien plus. Hein. Mm-hmm. Les banques, pour la plupart, ont des taux qui sont hyper élevés et c'est un frein, ça, qui n'est pas des moindres. En tout cas, pour ce qui est du financement bancaire.
Est-ce que la BCAO n'a pas une part de responsabilité dans cela, puisque on le voit dans d'autres pays, la banque centrale quand même fixe un taux d'usure. Est-ce que ça a été fait par la BCAO et est-ce que il y a un suivi pour s'assurer que ce taux d'usure n'est pas atteint justement par les banques?
Bon, à mon avis, du moment que vous prenez une libéralisation financière, pour moi, le fixer un taux d'usure, cela vous ramène à des politiques de répression financière. Donc, nous avons fait le pari de la libéralisation financière. Maintenant, c'est à nos pays, avec peut-être l'appui de la Banque centrale, d'aller vers la création de banques, mais vraiment pour nos économies. Je pense que le Sénégal l'a compris il y a peu, avec la création de la BNDE et de certains fonds stratégiques, dont le fonds souverain et le fonds GIP. Le fonds GIP apporte des garanties et l'autre finance tout ce qui est stratégique. Mm-hmm. Mais c'est peu et ça date de très peu longtemps aussi, il faut le dire. Donc la BNDE, pour ce qui est du Sénégal, est en train de faire son chemin. Mm-hmm. Ils sont en train quand même de financer un certain nombre d'agriculteurs le long de la vallée du fleuve Sénégal. Ça est en train de changer, ça est en train de prendre forme, mais on a pris tellement de temps pour comprendre cela. Les premières initiatives ont été vouées à l'échec. C'est à l'époque où on pratiquait encore de la répression financière. Le Sénégal avait, je pense, une banque nationale du développement agricole, la BNDA, ça s'appelait comme ça, mais qui a fait faillite parce que simplement, comme la banque appartenait à l'État, et puis la corruption s'en est mêlée et autres, et du coup, ce n'était pas soutenable.
Le débat éco sur la West Africa Démocratie Radio. Nous sommes avec Monsieur Mahamadou Baldé, directeur général de Viva Afrique, un média panafricain spécialisé sur le développement durable. Alors, Monsieur Baldé, des tentatives pour aider l'agriculture, on en connaît. Et d'ailleurs, il y a même une banque qui est dédiée à l'agriculture, donc la banque agricole CNCAS. Est-ce que ces projets aboutissent réellement à des résultats? Parce que quand même, cette banque, elle est là depuis longtemps et pourtant, les agriculteurs continuent de se plaindre.
Tout à fait. Alors, c'est comme je vous le disais, pour la plupart des banques, elles sont étrangères. Je ne pense pas que la CNCAS échappe tant que ça, en tout cas pour au début, du fait que majoritairement, ses capitaux soient détenus par d'autres filiales de banques à l'étranger, même tout si cela n'est pas saillant, même si cela n'est pas visible de prime abord. Et donc, du coup, le rôle de la banque est redéfini par autre chose. Ceux qui tirent les ficelles, on l'a pas forcément. Mais quand même, c'est une banque qui, pour le monde rural, le monde agricole, a fait ses preuves, a fait beaucoup de choses dans un contexte pas facile. Parce que, comme je vous le disais, il n'y a pas eu un appui à la formation. Regardez, dans les pays où on a reçu des délocalisations massives, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que des industriels, par exemple, ont quitté l'Europe pour aller dans des pays anciennement dits des pays de l'Asie de sud-est du sud-est. Qu'est-ce qui a fait ces délocalisations? C'est parce qu'il y avait une main d'œuvre de qualité à moindre coût. C'est la principale raison. Et de ce fait, ces pays ont gagné en transfert de technologie. Mais chez nous, qu'est-ce qui fera que demain, un industriel, même dans l'agriculture, viendra au Sénégal faire quoi que ce soit? Il y a très peu de chances. Pourquoi? Bien parce que simplement, s'il doit venir ici, il doit ramener des capitaux, mais également, il doit ramener les travailleurs, puisque ceux qui sont ici ne savent pas faire. Ou alors, il faut prendre son temps, il faut les former depuis zéro. Ils ne savent pas faire, clairement. Donc, c'est vraiment le problème. On n'a pas formé des gens dans des filières telles que l'agriculture. On a formé, je crois que le Sénégal a une école à Bambey qui existe toujours, c'est l'école des cadres ruraux, mais qui sont plus dans la planification rurale. On a aussi l'ENEA, où on forme des cadres du développement, mais qui restent toujours dans la planification. Mais des gens qui ont peut-être un niveau Bac plus 2, mais pratiques, agricole, il n'y en a pas. Moi, je n'en connais pas. Je n'en connais pas et je pense que ça, c'est un frein quand même qui est majeur par rapport au fait de dire oui, je finance ou je ne finance pas. Finalement, les rares agriculteurs qui décrochent ici des financements, ce sont des gens qui ont, par eux-mêmes, fait des preuves.
Est-ce à dire alors qu'il faut repenser justement la politique sénégalaise en termes en matière agricole, puisque aujourd'hui avec le PSE, le président Macky Sall a mis quand même l'accent sur l'agriculture, mais étant donné que voilà, il y a les faits que vous relevez en termes de formation, est-ce que on risque pas de tourner en rond pour rien?
Alors c'est le risque. Le risque, c'est vraiment ce perpétuel recommencement. C'est-à-dire, d'un programme à un autre, aujourd'hui, c'est le PSE. C'est louable, c'est bien, il y a beaucoup de vision dedans, il y a beaucoup d'idées. Elles sont toutes bonnes, j'allais dire. Mais est-ce que parfois, on ne met pas les charrues avant les bœufs? Aujourd'hui, quand on parle de mécanisation de l'agriculture et qu'on va chercher 1000 tracteurs au Brésil, sachant qu'on ne sait pas faire une roue de tracteur au Sénégal, est-ce que quelque part, on n'est pas en train de transférer la croissance économique? Si demain, ces tracteurs, il faut les maintenir, il faut ramener les ingénieurs du Brésil également. Il faut aller changer les pneus depuis le Brésil, quand bien même ils ont été offerts. Est-ce que ce n'est pas là un cadeau empoisonné? Donc, tout ceci, à mon avis, mérite d'être recuisiné, reconsidéré, de sorte à ce que ce soit une réflexion stratégique. Et c'est là où, généralement...
Mais dans tout cela, quel est le rôle du secteur privé? Puisque quand même, je veux dire, si le matériel agricole est disponible... Est-ce que ce n'est pas aussi au secteur privé de jouer quelque part son rôle pour former les gens et utiliser justement cette opportunité, créer des emplois et transformer cette opportunité en une réalité?
Bon, le secteur privé, dans l'exemple que j'ai cité, ils n'y peuvent pas grand-chose. Lorsque vous allez par je ne sais quelle forme d'aide conditionnelle, c'est-à-dire une aide bilatérale de pays à pays. Vous allez voir le Brésil pour qu'il vous fournisse des appareils vous permettant de mécaniser votre agriculture. Alors, il y a des non-dits. Dans les non-dits, il y a ce qu'on appelle les conditions. Et dans ces conditions, c'est bien évidemment les pièces de rechange et autres. Alors, le secteur privé, même s'ils savent faire ces mêmes pièces-là, même si demain quelqu'un est incité ou bien a l'ambition de faire ces mêmes pièces-là, ce ne sera pas à lui de changer les pièces des machines qui viennent du Brésil. Mm-hmm. Certainement pas. Je ne suis pas à 100% sûr de ça, mais pour la plupart des formes d'aide, des aides bilatéraux, c'est-à-dire de pays à pays ou bien multilatéraux via des agences de développement, il y a des conditions qui ne sont pas clairement dites dans la place publique. Tout le monde ne connaît pas forcément ces conditions. Et ce sont ces conditions qui plombent bien souvent la soutenabilité de l'activité qui a été financée par l'aide. Ce qui fait que bien plus tard, cela capote. Et donc, on a l'impression vraiment de rouler sur des voies très rapides, ultra rapides. On se dit que c'est waouh, c'est un projet, il est bien, il est machin. Mais finalement, on se rend compte que cette voie rapide, en fait, c'est une boucle. Elle vous ramène au point de départ après 10 ans, après 5 ans. Voilà, donc c'est vraiment ça qu'il faut changer. Il faudrait d'abord une réflexion, comme je l'ai dit, mais je ne le répéterai pas assez, une réflexion d'abord stratégique. On va mécaniser notre agriculture, ok, mais le matériau du fer au Sénégal, il y en a. Le matériau et aussi la conception pour que ce soit adapté à notre type d'agriculture, la fabrication et tout ceci aurait dû être fait ici au Sénégal. On a quelques lycées techniques où des jeunes avaient été formés, mais qui ne servent pas. Ils sortent avec un bac F1, F2, F3 jusqu'à F6, pétrochimie, quelque chose comme ça. Ils se retrouvent à rien faire. Ils vont à la fac faire philosophie. S'ils ont de la chance, s'ils n'ont pas de la chance, c'est terminé pour eux. Ils retournent faire peut-être de la menuiserie avec le grand frère du quartier.
Mahamadou Baldé, est-ce qu'il n'y a pas aussi une résistance des acteurs concernés eux-mêmes? Puisque les agriculteurs, on se rend compte que ce qu'ils faisaient par le passé, ce qu'ils ont vu leur arrière-grand-père faire, c'est ce qu'ils continuent de faire. C'est comme si, en fait, ils ne voulaient pas se mettre à niveau. Alors, est-ce qu'il n'y a pas cette forme de résistance aussi?
Non, moi je n'accuserai pas les agriculteurs hein, dans une forme de résistance parce que c'est de la nature humaine que de continuer ou de perpétrer une façon de faire. On peut la faire évoluer si on y est incité. On peut la faire évoluer s'il y a crise. Ça ne marche plus. Et on est obligé de se réinventer. C'est en ce moment que survient ce qu'on appelle l'innovation. Mais tant que ça marche, marche entre guillemets, c'est-à-dire on en vit un peu et puis il arrive une période de soudure où il n'y a plus rien et que depuis 50 ans on a vécu comme ça, ben on continue comme ça, mais on ne s'enrichira jamais comme ça. On ne mourra pas comme ça, mais on tendra presque tout le temps la main comme ça. Alors pour que ça change, ce n'est pas pour rien qu'on va nommer des hommes politiques qui, dit-il, ils ont une certaine vision. Eh bien, cette vision, on attend à ce qu'elle soit traduite maintenant en aidant justement ce monde-là agricole à voir plus loin, à aller vers des choses qui changent complètement l'agriculture, qui rendent leur terre beaucoup plus productive.
Le débat éco, rediffusion les mardis à 17h30 sur la WADR 94.9 FM.
Nous sommes avec Mahamadou Baldé, qui est le directeur général de Vive Afrique, un média panafricain spécialisé sur le développement durable. Monsieur Baldé, avec tout ce que vous venez de nous dire comme difficulté dans le secteur agricole, notamment au Sénégal, alors est-ce que l'agriculture ne risque pas, dans nos pays, ne risque pas d'être accaparée par les grosses industries?
Mais les
multinationales.
Ça a commencé. C'est exactement ce que je disais. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'en Afrique, il y a un potentiel dans le domaine de l'agriculture. Beaucoup de pays comme le Sénégal cherchent l'autosuffisance alimentaire. Ça a été dit depuis Abdou Diouf, hein, même depuis Senghor. Ça a toujours été dit, mais encore aujourd'hui, on n'a pas atteint l'autosuffisance alimentaire. Il y a des gens qui, chez eux, ont une lecture de la géostratégie internationale. Donc, ils ont, eux, des firmes et ils cherchent des endroits où il y a de la rentabilité et de la stabilité. Donc, quand les deux sont alignés, ils peuvent investir. Et c'est le cas au Sénégal. Aujourd'hui, il y a des gens qui nous viennent de la Chine avec leur argent, avec leur matériel et avec leurs hommes également. Vous avez des Indiens qui font pareil. Aujourd'hui, ils font énormément de pommes de terre le long de la vallée du fleuve Sénégal, ainsi de suite. Donc, c'est dire que oui, on va vers l'autosuffisance alimentaire, mais avec qui? Est-ce que si...
Ce sera avec les Sénégalais ou sans
c'est
les
cela,
Sénégalais
en fait. Donc quand vous regardez le PIB du Sénégal avec tous ces investissements dits de gauche à droite, c'est grand. Mais lorsque vous comparez cela au PNB, le PNB il se grève de façon extraordinaire. C'est dire qu'en réalité, le PIB il est fait par d'autres. Et naturellement, nous-mêmes nous le disons, pourquoi lorsque notre diaspora envoie des transferts qui dépasseraient même l'aide, pourquoi est-ce que la diaspora des autres pays, quand bien même développés, ne ferait pas un retour inverse des transferts? Donc c'est très logique. Donc nous sommes en train parfois de nous leurrer avec des chiffres, mais qui ne nous appartiennent pas, qui ne vont pas aux populations. Et c'est pour cela que d'ailleurs les populations ne ressentent pas 6%, 7%, 8% de croissance du PIB. C'est pareil, les années passent, mais c'est pareil. D'accord, il y a très peu de ressentis en tout cas, parce que simplement, il y a, comme vous l'avez dit, beaucoup, beaucoup d'industriels venus de partout dans le monde qui sont en train de voir des secteurs productifs dans lesquels investir. Alors, encore toujours, la réflexion stratégique, ce ne serait pas de fermer ses frontières à ces gens-là.
C'est même pas possible avec les accords de l'OMC.
Il faut les accepter, mais avec vos conditions. Vos conditions devraient œuvrer pour le transfert de technologie, pour qu'aussi vos populations maîtrisent ces procédés-là, pour que demain, qu'ils puissent ouvrir d'autres industries, d'autres unités à côté, et faire la même chose. Et c'est ce qui vous rendra, à proprement parler, indépendant, voire autosuffisant alimentairement.
Mahamadou Baldé de Viva Afrique, et nous revenons au financement. Alors, pourquoi est-ce que les banques sont justement frileuses? Tout à l'heure, vous disiez ça concerne tous les secteurs d'activité, mais on se rend compte que quand même, le secteur rural aussi, le secteur agricole, est forcément très défavorisé par rapport au financement bancaire. Qu'est-ce qu'il explique? Est-ce que le risque dans l'agriculture est très élevé pour une banque ou non?
Alors, oui, le risque, il faut le dire, dans une activité inconnue, comme les banques, pour la plupart, sauf quelques banques spécialisées du monde rural, ne finançaient pas tant que ça des projets agricoles. Elles commencent peut-être pour certaines, mais le risque reste entier puisque on ne connaît pas. Comment on évalue le risque? Pour évaluer le risque, d'abord, il faut avoir un historique. Un historique du comportement de la clientèle du secteur.
Ça nous ramène à la formation.
À la formation. Donc, quand on n'a pas ça, quand on ne connaît pas le comportement des acteurs de ce secteur, quand on ne connaît pas comment le secteur lui-même se fournit en intrants, et il y a un intrant fort risqué qui ne se crée pas comme on veut, comme la pluie. Malheureusement, nos agriculteurs et notre agriculture en est tributaire pour une large part. Aujourd'hui, avec les risques climatiques, cela augmente encore vraiment en incertitude par rapport à la pluie et donc par rapport à la rentabilité de l'agriculture dans nos pays. Les changements climatiques viennent bousculer tout ceci. Donc pour les banques, c'est encore pas de vision. C'est très compliqué pour voir la rentabilité, évaluer la rentabilité d'un champ et se dire que oui, je vais investir dans ce champ-là. Donc c'est très compliqué. Cela ne reste pas impossible. Il y a non seulement des compétences ici qui soient en mesure de les accompagner, déjà les banques, mais il faudrait qu'elles soient ouvertes à ce genre de dialogue pour que des gens qui s'y connaissent puissent les appuyer en intelligence afin de conquérir le monde rural, pour peu que ce soit leur objectif.
Oui, parce que tout à l'heure vous disiez que les banques, c'est vraiment, elles sont dans le cannibalisme quasiment de nos pays. Mais Monsieur Mahamadou Baldé, tout à l'heure je faisais référence à la formation, parce que les agriculteurs ici en Afrique de l'Ouest, et particulièrement au Sénégal, parce que quand même en Côte d'Ivoire, on voit des agriculteurs qui sont très ordonnés, avec beaucoup de rigueur dans la planification de leur production. Mais ici au Sénégal, il est très rare de voir un agriculteurs quand même, qui tiennent une comptabilité, qui peut vous dire voilà, donc chaque année à peu près, j'utilise tant d'intrants, j'utilise tant de semences, tant d'engrais, etc. Ils n'ont pas cette culture justement de laisser des traces par rapport à ce qu'ils font. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas justement aussi, comme vous disiez tout à l'heure au début de cette émission, commencer par former nos agriculteurs pour qu'ils aient quand même ces habitudes, en sachant que plus tard, ça va leur servir, notamment pour avoir des financements.
Tout à fait. Alors, je le redis, et je suis très d'accord avec ça. La formation, c'est le début. C'est le début pour faire un métier correctement, quel qu'il soit, l'agriculture ou quel que soit le métier. Alors, pour en revenir à la comparaison à laquelle vous faisiez mention entre un agriculteur en Côte d'Ivoire et au Sénégal, et au fait de tenir, comment ça s'appelle, une comptabilité, ou bien être un peu plus formel, il y a une culture, même dans l'agriculture, qui fait que les agriculteurs vont être différents. Un agriculteur qui s'est spécialisé dans une agriculture de rente, c'est-à-dire que j'appelle de plantation, donc de rente, c'est pas la même chose qu'une agriculture comme celle de l'arachide, où chaque année il faut semer, récolter, retourner la terre et à nouveau semer. Donc la dépendance par rapport à la pluie et la dépendance par rapport à d'autres facteurs dont les intrants auxquels vous faisiez mention, ce n'est pas du tout la même chose. Et la nature fait bien les choses. En Côte d'Ivoire, il pleut beaucoup plus qu'au Sénégal. Ils sont beaucoup plus dotés en eau. Et ils sont plus orientés vers une agriculture de plantation.
Mais quand même, il y a une meilleure organisation aussi.
On est bien d'accord.
De leur filière, non, quelle qu'elle soit.
On est bien d'accord. Mais il est plus facile. Si vous allez au sud du Sénégal, vous verrez des gens qui sont dans des plantations dans l'Acadie. Ils sont beaucoup plus organisés que ceux qui sont dans l'arachide. Parce que simplement, chaque année, on ne va pas replanter des plants dans la carte. D'accord. Ce sont les mêmes que l'on essaye d'encadrer et c'est pas un travail qui est très, très compliqué. Même si parfois ces plantes-là subissent des attaques d'insectes ou autres qu'il faut surveiller. Mais tout ceci fait partie du métier, il faut le connaître. Si on ne le connaît pas, ben, on ne fait pas une bonne production. Il faut voir aussi ceux qui sont dans la filière mangue au Sénégal, qui connaissent bien ce qu'ils font. D'accord. Vous allez à Gigensor, vous verrez vraiment des gens qui sont dans la filière mangue. Donc je veux dire simplement que pour la plupart des agriculteurs en Afrique, les mieux organisés, ce sont ceux qui sont dans une agriculture de rente, c'est-à-dire de plantation. Pour les autres types d'agriculture, c'est un peu plus difficile. Parce que pour un agriculteur qui est dans l'arachide, il suffit qu'il ne pleuve pas, c'est fini pour lui. Ça a capoté. Et puis après, à partir de là, il peut ne plus continuer à faire de l'agriculture. Il peut arrêter un an, deux ans, encore revenir. Donc on n'est pas vraiment un agriculteur confirmé. On n'est pas là, pendant des années, se dire que c'est ça mon job. Donc en attendant, on essaie de voir si on ne peut pas faire autre chose ailleurs.
Mahamadou Baldé, on va faire une petite digression. On va rester dans l'agriculture, mais quand même l'assurance agricole. On en est où dans nos pays au Sénégal?
Bon, là aussi, ça commence. Hein. Mais il y a au Sénégal des structures qui sont très avancées dans ces domaines-là. Et je pense que ça, c'est quand même une opportunité majeure pour l'agriculteur. Mais encore faudrait-il qu'ils comprennent c'est quoi l'assurance, à quoi cela va servir de se prémunir, à quoi cela va servir d'anticiper un risque, d'anticiper une catastrophe, d'anticiper une baisse de productivité, voire zéro production. Donc tout ceci, c'est un dialogue qu'il faut faire. C'est une large sensibilisation à défaut de formation, comme on le disait tantôt. Mais au Sénégal, il y a, je pense, c'est la Caisse nationale d'assurance. C'est un peu comme c'est le CNAS, ça s'appelle comme ça.
Oui.
Voilà. Ils font vraiment un travail assez important, et je pense que c'est une caisse qui va monter en puissance. Par rapport à l'assurance au niveau des agriculteurs,
du secteur agricole.
Et ça, c'est très important pour les agriculteurs.
Alors, l'e-commerce, le mobile banking, en quoi est-ce que les nouvelles technologies pourraient faciliter justement le développement du secteur agricole dans nos pays?
Dans beaucoup de choses. Déjà, dans le financement, le mobile banking peut, par sa rapidité, vraiment accélérer le processus d'approfondissement financier, de sorte que l'agriculteur le plus lointain doté d'un téléphone, c'est-à-dire d'un terminal et une carte SIM, puisse vraiment être connecté avec des réseaux de bailleurs, que ce soit des banques ou bien d'autres formes de mutuelles qui lui permettent d'avoir l'argent, c'est-à-dire les financements lui permettant de financer son agriculture. Mais avec des téléphones munis d'applications, l'innovation va même jusqu'à aider l'agriculteur à quand semer, quand est-ce qu'il ne faut pas semer, avec aujourd'hui prise en compte des aléas climatiques, notamment quel type de semis enfouir dans le sol, est-ce qu'il y aura beaucoup de pluie, donc il faut mettre des des semis longs, ou au contraire, il y aura peu de pluie, il faut mettre des semis courts. Si l'agriculteur n'est pas informé, n'est pas vraiment à l'affût de l'information, ben, il va s'y tromper et puis il ne sera pas forcément, la rentabilité ne sera pas forcément au rendez-vous. Donc, les nouvelles technologies sont une opportunité pour les agriculteurs.
D'autant que maintenant, tout le monde utilise son portable.
Il faudrait qu'il soit connecté. Il faudrait qu'il soit connecté.
Oui, voilà. L'accès à Internet.
C'est cela.
Nous sommes avec Mahamadou Baldé, directeur général de Viva Afrique. Au-delà de la production, il y a la transformation. Là aussi, c'est un gros problème dans nos pays. La Côte d'Ivoire, ce n'est que récemment qu'ils ont commencé à ouvrir une industrie pour fabriquer du chocolat, alors qu'ils ont leur fève de cacao depuis quand même belle lurette. Donc, aujourd'hui, au Sénégal, vous donniez l'exemple de la Casamance qui produit de la mangue, de l'anacarde, etc. Donc, comment passer justement de cette étape de production à une étape de production industrielle?
Alors, j'en reviens vraiment au manque de réflexion stratégique quasiment depuis nos indépendances. Nos dirigeants y sont pour beaucoup. Je ne suis pas en train de dresser un procès contre qui que ce soit. Mais quand même, ils y sont pour beaucoup et les bailleurs de fonds n'y sont pas pour le moins. Ils y sont aussi pour quelque chose parce que la plupart des aides qui sont parvenues en Afrique ont été des aides conditionnées et on nous a longtemps fait croire que l'Afrique avait plus vocation à produire de la matière première. Et donc, cet équilibre s'est maintenu jusqu'à que récemment, des idées émergent. Ça n'a pas changé du tout, ça reste encore une vérité. Encore le coton qui est produit au Sénégal, il est balloté en fibres textiles au mieux. Il va vers d'autres horizons pour être transformé en tissu qui nous revient plus cher.
Donc, les pareil pour la tomate.
Pareil pour la tomate, pareil pour l'arachide même, hein, pareil pour beaucoup d'autres produits qui sont faits localement. La vision, c'est un produit, mais après, pour la transformation, ce n'est plus nous. Il faudrait que cela change. Mais pour que cela change, c'est pas l'agriculteur qu'il faut aller voir. C'est celui qui dit avoir une vision, qui a demandé le suffrage de nos peuples. C'est à lui, vraiment, d'avoir du tact et de la réflexion stratégique. La réflexion ne suffit pas. À un moment, il faut du tact, il faut aussi de la diplomatie. Parce que des pays surpuissants qui vous ont toujours prêté de l'argent, à qui vous devez, qui en partie dépendent de votre cacao pour faire le chocolat, le meilleur des chocolats possibles, du jour au lendemain, vous leur dites « Ah non, moi je veux maintenant transformer mon cacao sur place », il peut y avoir conflit d'intérêts. Et les conflits d'intérêts, personne ne sait jusqu'où ça peut aller. Hein. On a vu ici des présidents comme Thomas Sankara qui avait la vision, mais hélas, il n'y avait pas assez de tact pour vraiment canaliser cette vision et la transformer pour que cela serve plus longtemps.
Il y a même eu du concret hein, au Burkina Faso. Même le FMI avait dit que...
Mais voilà. il y a eu malheureusement, après, ça peut être heureux aussi, cela dépend de qui on est et comment est-ce qu'on est en train, quelle lecture on est en train de faire de ces sorties frontales par rapport à des puissances.
Pour ça dire, lui a coûté la vie de toute manière.
Voilà, donc c'est ce dont je suis en train de dire. Donc il avait la réflexion stratégique, mais de l'autre côté, le tact n'y était pas. Et il faudrait associer les deux. Il faudrait associer les deux de sorte que l'on puisse vraiment faire des choses concrètes en Afrique sans pour autant heurter certaines sensibilités. Il ne s'agit pas de dire ce n'est pas un aveu d'impuissance que je suis en train de faire là, mais les choses, il faut les faire avec intelligence et petit à petit. Mais clairement, la transformation, il faudrait que l'on aille vers la transformation pour que notre agriculture nous serve. Le fait de produire des biens que nous ne pouvons pas consommer et d'aller acheter des biens à consommer, c'est l'une des plus grandes erreurs qu'un pays peut commettre, qu'un peuple peut commettre. Et depuis longtemps, ça a été vraiment ce qu'on a fait. On a produit du coton, on ne mange pas du coton. On a produit du cacao brut, on ne le mange pas brut. On a fait du café, même le café peut-être un peu avec un peu de feu, le transformer, le boire sur place. Mais on a fait beaucoup d'autres produits, sésame ou tout ce que vous voulez, qui d'abord va être transformé au nord et puis nous revient beaucoup plus cher. Donc tout ceci mérite d'être réfléchi, hein, mais avec stratégie, avec tact, voir comment on peut faire émerger une industrie localement. Et comment faire de sorte que cette industrie gagne en qualité, de sorte aussi à aller toucher du doigt le marché mondial des produits manufacturés. Voilà. Mais ça, c'est obligé, c'est un passage obligé si on veut vraiment devenir des pays émergents. C'est le slogan qui est brandi un peu partout. 2035, mais pour moi, 2035, c'est
déjà loin.
Pour moi, c'est très proche.
C'est déjà loin pour atteindre le développement. Je veux dire, on aurait dû être beaucoup plus ambitieux pour pouvoir atteindre le développement très rapidement.
Très rapidement, oui. Mais alors, en ce moment, il faudrait accélérer la cadence, plus que celle que je suis en train de voir.
Oui.
Si on veut vraiment rapprocher les horizons, il faudrait que ce soit, la vitesse soit décuplée là, en ce moment. À cette vitesse, 2035, à mon avis, c'est demain. C'est vite fait. Un pays émergent, c'est pas évident. Pour le moment, nous sommes vraiment immergés. Hein. Nous sommes vraiment au fond, mais vraiment au fond. Mais on se rend pas compte.
Que...
Quand on parle des pays de l'Afrique de l'Ouest, pour la plupart, d'ailleurs tous, sauf peut-être le Nord, ce sont des pays qui appartiennent à la classe des pays les plus pauvres. Nous ne sommes même pas des pays intermédiaires. 2035, on est déjà 2018. 2035, c'est dans 17 ans.
Oui,
17 ans, c'est vite fait. Si on fait on revient 17 ans en arrière, allez, en 2000. Entre 2000 et 2018, les transformations qu'il y a eu au Sénégal, disons qu'on va opérer à peu près au même, voire le double, encore 17 ans. Est-ce que cela suffit pour être un pays émergent? À mon avis, non. On serait encore loin des pays émergents. Les pays émergents comme les BRICS, qu'on connaît, Brésil, Russie, Inde, bien sûr,
Afrique du Sud.
Donc, il faudrait soit accélérer la cadence, ou bien l'horizon est en ce moment, à mon avis, à mon humble avis, est en ce moment hyper court.
Merci beaucoup à vous, Mahamadou Baldé, directeur général de Vive Afrique, un média panafricain spécialisé sur le développement durable. Ça nous fera très plaisir de vous avoir pour d'autres sujets, d'ailleurs, dans ce débat éco.
Merci. C'est avec plaisir que je reviendrai.
Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation.
Je vous en prie, merci.